Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Après avoir épuisé toutes les voies du dialogue, devant les violences intempestives du pouvoir colonial, Amilcar Cabral, le leader du Parti africain pour l'indépendance des peuples de Guinée et de Cap-Vert, a choisi une autre stratégie pour libérer son peuple, la lutte armée.
Le mot d'ordre le plus actuel, c'est de développer, intensifier l'action armée contre les derniers bastions occupés par les colonistes portugais chez nous.
Installé depuis 1960 à Conakry, où Sékou Touré a fourni à son mouvement et aux autres organisations indépendantistes de la région une base de combat, Amilcar Cabral va d'abord s'employer à fédérer les différents partis clandestins qui militent pour l'indépendance dans les pays de colonisation portugaise. José Letao de Grasse était le secrétaire général de l'Union pour l'indépendance du Cap-Vert Rénovation, un mouvement concurrent.
Je savais déjà que le PGC voulait, par la force, l'union avec le Cap-Vert. Il disait c'était l'union pour la lutte. Je disais non, parce que j'ai eu une première rencontre avec Amilcar Cabral à Dakar. Bien, il m'a invité de faire partie du PGC. Je devais aller à Conakry. Mais en parlant avec des gens qui étaient au courant de ce qui était Conakry et cette question de l'union, parce qu'ils n'admettaient pas que l'on pose des questions sur l'union. C'était une chose pour lui sacrée. Alors, j'ai refusé d'y aller. Et c'est pourquoi j'ai échappé de rentrer au PGC, parce que ce serait fini pour moi. Ah, évidemment, parce qu'il avait une forte personnalité pour mener cette idée. Moi aussi, je ne pouvais pas accepter d'imposer, parce qu'il fallait consulter le peuple et tout. Et je voyais, en discutant avec lui, tant à Dakar comme une deuxième et dernière fois à Accra, je voyais que lui, il avait des illusions. Sur cette question, il pensait que tout allait bien. Il m'a dit la divergence, la haine que les Guinéens avaient envers les Capverdiens a disparu grâce au travail de notre parti. Cela avant le déclenchement de l'État armé. Tout est fini, tu es retardé à cette question. Moi, je dis, c'est pas possible. Tout d'abord, je dois vous dire que quand j'étais au Portugal, j'étudiais cette question. Guinée, Cap-Vert, oui. Comment les Cap-Verdiens sont allés en Guinée comme des agents des Portugais pendant la guerre pacification et tout ça. Et cela a créé une haine parmi la population guinéenne. Et à travers les informations de mes familiers, parce que j'avais des familiers même qui avaient pris part à la guerre pacification. Et pendant mon séjour en Guinée, en 69-60, j'ai pu parler avec des gens, avoir des sentiments et tout. Et ma conviction était que la haine continuait. D'accord?
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Amilcar Cabral. Luis Cabral, ancien président de Guinée-Bissau et combattant de l'indépendance.
Nous étions des frères seulement, nous n'avions pas la même mère, mais nous avions le même père et nous avons eu des rapports très étroits depuis notre enfance. Vous savez, il était déjà au lycée à San Vicente au Cap-Vert et moi j'habitais à Praia avec mes parents et il passait toujours les vacances avec nous et donc c'était le frère qu'on attendait toujours, qui nous amenait des choses nouvelles, qui nous intéressait à cette vie du lycée au début et de plus en plus à l'évolution du monde. Amilcar a eu toujours une très grande influence sur moi.
Bruno Krim, journaliste, il a été très présent dans le Maquis et à Conakry avec Amilcar Cabral.
Moi, le parti, c'était d'abord quelques personnes. Vous savez, c'est un parti qui s'est fondé sur 6 personnes, hein, au début. Faut pas voir ça en termes bolcheviques, avec des structures relativement complexes, nombreuses, hein. C'est 6 personnes qui ont créé le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Et petit à petit, ils ont recruté, naturellement, mais d'abord, comme c'est fréquemment le cas, le dirigeant, c'était Amilcar Cabral. C'était pas du tout l'effet du hasard. Il était intellectuellement au-dessus des autres. Il avait une vision plus large, il avait une aura, c'est ce qu'on aurait appelé un dirigeant charismatique, quoi. Il avait une belle intelligence, il avait une belle approche du terrain. Bon, il dominait le problème, il n'y avait pas de doute, c'était lui le dirigeant. Il n'y avait personne pour lui disputer la place. Et puis autour de lui, il y avait 6, 7, 8, 9, 10, environ une dizaine peut-être de gens. Il y avait consultation, discussion. Qu'est-ce que t'en penses, si, cela? À mon avis, in fine, c'était toujours, ou quasiment toujours, l'avis d'Amilcar Cabral qui prévalait. Il arbitrait les différends, et comme c'était un pragmatique, qui mesurait avec souplesse les rapports de force, je pense que, en gros, c'est toujours lui qui finissait par l'emporter.
Pedro Pires, membre du conseil de guerre du PAIGC, responsable de la formation des combattants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert.
Mais nous avons fait une formation militaire, ça on peut parler de ça maintenant. On a appris à nager, on a appris à faire la navigation un petit peu, comme ça. Tout ça était utile jusqu'à maintenant, parce que on apprend à attendre, on apprend à être patient, on fait une école de psychologique, dans le danse physique, c'est tout ça, on crée une personnalité. Parce que vous voyez, quand on est convaincu, mais on raisonne, on sait que je vais faire telle chose, mais je peux mourir, je peux me sauver, etc. On ne peut pas dire que c'est une option. Endoctriné, je crois, c'est ceux qui suivent sans penser trop. Mais quand vous pensez, c'est la conviction.
Alcide Breto Evora, dit Bacha.
Quand j'ai quitté le Cap-Vert, j'étais toujours dans la tête le désir d'engager dans la lutte. J'étais contacté par Pedro Pires et c'est à partir de cela que je suis plus intéressé dans la lutte clandestine, qui après nous sont partis en Algérie. Je suis resté à peine à Alger, mais nous avons commencé précisément l'entraînement à Cuba. D'Alger, je suis parti à Cuba. Nous sommes restés 3 ans à Cuba. Après, nous sommes partis à l'Union soviétique, là où nous sommes restés 10 mois. Toujours pour l'entraînement militaire et politique, parce que le désir de Cabral, c'était pour le déclenchement de la lutte armée au Cap-Vert. C'était de 65 jusqu'à 68. Disons qu'on devait déclencher la lutte armée au Cap-Vert en 1967.
Dès la première année, la lutte armée adoptée par son mouvement a donné des résultats spectaculaires. Même les colonisateurs portugais reconnaissent en 1964 qu'au moins 15% du territoire est aux mains du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Lucette Cabral.
Ah oui, parce qu'en zone libérée, on avait déjà une structure. On avait des magasins du peuple qui étaient basés sur un système de troc. L'hôpital gratuit, la santé gratuite, on avait l'éducation gratuite. On avait déjà un embryon de ce que nous voulions faire dans la Guinée-Bissau libérée, le Cap-Vert indépendant.
Le peuple acquiert sa cause. Malgré la modicité des moyens, le mouvement de libération vole de victoire en victoire. Les Portugais, qui ont aligné des forces considérables pour reconquérir les territoires perdus, ne parviennent pas à le faire reculer. Pedro Pires, membre du conseil de guerre du PAIGC, responsable de la formation des combattants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert.
Mais c'est que nous étions en train de penser, mais quoi faire? Il faudrait se préparer pour tout et organiser des divers scénarios. Un de ces scénarios, c'était, oui, le débarquement. On a recruté des gens, on a organisé une certaine stratégie, etc., pour le faire. Les Cubains seraient, bon, ils pouvaient nous transporter. Ils ne seraient pas partis de notre aventure. Pour beaucoup de monde, de nos amis, ils trouveraient ça très hasardeux. Et de ce côté-là, nous ne pouvons pas recevoir aucune aide. Mais enfin, notre aventure, c'était proche. L'aventure projetée qu'on n'a pas pu réaliser.
En réalité, devant l'ampleur de l'avancée du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui détient déjà près de 2/3 du territoire, et l'intense activité diplomatique d'Amilcar Cabral, le Portugal, pour faire face, va déployer de gros moyens militaires. Gérard Chalian, journaliste à l'époque sur le terrain.
D'abord sur le plan militaire, il arrivait d'Angola après avoir remporté des succès militaires indiscutables en Angola. C'est à lui, en quelque sorte, qu'on a demandé de répondre aux défis du PAIGC, et il y a répondu assez bien. C'est-à-dire qu'il a réussi à bloquer la situation par ses regroupements de hameaux stratégiques, par l'utilisation systématique de la division tribale, etc., par l'utilisation de parachutistes, dans les coups de boutoir qui pouvaient vraiment faire mal.
Bruno Grimm, journaliste proche d'Amilcar Cabral.
Je me rappelle une fois qu'il y a eu une alerte pour un bombardement et c'était de napalm qu'ils avaient utilisé. Le PSGC contrôlait au moins 60% du territoire. Mais c'est vrai aussi qu'au-delà de 60%, ils ne pouvaient pas y aller. Parce qu'il y avait une espèce de cadenas qui était représenté par les villes côtières et quelques villes qui étaient un peu plus à l'intérieur, qui est infranchissable. Donc, s'il n'y avait pas eu le coup d'État au Portugal, c'était une situation normale dans laquelle les uns faisaient leurs affaires et les autres faisaient leurs affaires. C'est-à-dire, il y avait une situation occupée, une partie du pays, l'autre partie non occupée. Je dirais même pas libérée, non occupée. Tout simplement ça.
Aristide Pereira, ancien compagnon de lutte d'Amilcar Cabral. Au temps de la lutte, il était le secrétaire général adjoint du PAIGC. Il est aussi l'ancien président du Cap-Vert.
En 68, on peut dire que c'est le point le plus haut de notre lutte de libération. Qu'on est arrivé à fixer l'ennemi sur le terrain. Ça veut dire, à partir de 68, la tactique des Portugais, c'était le suivant. Ne pas bouger dans le quart de tranchée et on bombarde les Vendées. C'est à ce moment-là qu'apparaît Spinola, qui vient avec sa lutte psychologique. Et il a fait toute une politique, comme il avait déjà une situation stable dans ses quarts tranchés. En allant à Mao Tse-Tung, il disait que la guérilla est comme le poisson dans l'eau. Donc, il faut retirer l'eau. L'eau, c'est la population. Donc, il crée des villages autour de ces quarts tranchés et en appelant les paysans guinéens, de venir, qu'ils les offrent des choses, etc. Et vraiment, ils leur donnaient des choses. Et nous avions fait toute une campagne pour que les paysans augmentent la production du riz, justement pour que les gens puissent manger, mais aussi pour qu'ils puissent avoir d'autres choses. Mais avec cette action psychologique, évidemment qu'on pourrait perdre cette guerre de libération, parce que les gens étaient déjà désespérés. Et il y a même des gens qui étaient des militants du parti, mais qui disaient, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Je travaille, je produis, le riz est en train de pourrir, et je n'ai rien pour m'habiller. Il faut aller au camp ennemi pour aller prendre les choses. Et c'est en ce moment-là, en 69, que la Suède décide de nous donner des marchandises, et qu'on crée le célèbre magasin du peuple. Et ça, c'est un effet extraordinaire, parce que les marchandises qu'on recevait de la Suède, même du point de vue qualité, étaient supérieures à ce que les autorités portugaises fournissaient aux paysans. Et ça a eu une valeur extraordinaire de neutraliser, disons, toute cette action psychologique.
Maréchal Costa Gomes, ancien chef d'état-major des forces portugaises, ancien président de la République du Portugal.
L'ação psychologique exercia surtout para convencer as populações.
L'action psychologique s'exerçait surtout pour convaincre les populations du fait que notre séjour et notre souveraineté en Guinée avaient comme principale finalité une élévation du bien-être et du niveau de vie de ces populations. À ce niveau, le général Spinola a effectué un travail que l'on peut considérer comme très bon. Bien sûr, dans les zones qu'il dominait, parce que là où le PAIGC contrôlait, il ne pouvait pas effectuer ce travail. Mais que ce soit dans la zone des Foulas ou dans la zone de la poche frontalière près du Sénégal, il a effectué un travail excellent sans aucun doute.
Bon, je ne sais pas s'il y avait des problèmes internes, parce que je lui ai dit que je n'étais pas colloqué dans la Guinée-Bissau. Mais je pense que réellement, Amilcar Cabral,
bon, je ne sais pas très bien, car je n'ai jamais été en mission en Guinée-Bissau. Mais je crois que réellement, Amilcar Cabral avait un grand prestige et une grande autorité sur les éléments qui nous combattaient. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des divergences et des luttes pour le pouvoir au sein du PAIGC. Et il y en a eu, comme on l'a vu. Car on le sait, le PAIGC était constitué par des éléments de Guinée et du Cap-Vert. Et entre ces éléments de Guinée et ceux du Cap-Vert, qui occupaient les postes les plus importants, surtout administratifs, il y avait des dissensions qui se sont renforcées après l'indépendance, où ils ont dû se séparer.
Thank you. Le Portugal, dans sa contre-offensive, va ajouter à l'option militaire un volet psychologique, en africanisant la guerre par incorporation massive de locaux dans les troupes et en accordant des promotions aux élites traditionnelles qui désormais collaborent avec eux. La lutte change de visage et le PAIGC doit faire face à cette nouvelle stratégie. Amilcar Cabral.
Il cherche maintenant à faire une politique de tapage, n'est-ce pas, de tromper les populations, n'est-ce pas, de faire des concessions. Par exemple, concrètement, les Portugais ont toujours combattu chez nous l'islam, n'est-ce pas. Vous savez que nous avons une population d'environ 20% à 29% de musulmans, n'est-ce pas. Alors les Portugais combattaient cela, ils combattaient même les écoles coraniques, tout. Mais aujourd'hui, ils bâtissent des mosquées dans les centres urbains, n'est-ce pas, et ils envoient des gens à la Mecque. Ces gens étant après reçus comme des gens très importants par le président de la République, promenés comme des touristes au Portugal et retournés au pays par avion, n'est-ce pas. Cela donne l'état de désespoir auquel les Portugais sont arrivés et qui ont toujours été les propageurs du christianisme, n'est-ce pas, et de la religion catholique, vous voyez bien. En outre, ils font certaines concessions sur le plan social, culturel. Ils envoient beaucoup plus maintenant d'étudiants au Portugal pour des bourses d'études. Nous remercions beaucoup parce que ce sont des futurs cadres pour notre pays, n'est-ce pas. Mais la réalité, c'est qu'ils n'arrivent plus à tromper des gens, n'est-ce pas. Ces gens qui, à présent, voient avec un certain étonnement le Portugais changer tellement dans les attitudes civiques envers les Africains, disent en général Jaram à PAIGC, cela veut dire merci PAIGC, parce qu'ils comprennent fort bien que c'est le résultat de la lutte, que ce n'est pas un changement de la part des colonialistes portugais.
Cette stratégie de séduction de la population rurale s'accompagne d'une formidable campagne de propagande pour discréditer les militants nationalistes. Pedro Pires, membre du Conseil de guerre, responsable de la formation des combattants.
Vous voyez, moi j'étais, une fois j'étais à Kandjafra, c'est le commandement du front sud, j'avais une fièvre de 40-41 degrés. Je délirais. Quand après j'étais, la fièvre était abaissée un peu, la radio portugaise transmettait le suivant. Bon, vous êtes là en souffrant, mais vos chefs, les Capverdiens, sont à l'extérieur, faisant la belle vie. Nous, nous étions là, moi, mes hommes, mes amis, nous étions là. Moi, j'étais dans une situation terrible, les gens étaient autour de moi. Ils écoutent ça, ils disent, mais qu'est-ce que se passe? Parce que la campagne portugaise, quelquefois, était tellement stupide pour des gens stupides. On a tué combien de gens? Mais les gens qui sont participés dans ce même embuscade, dans cet accrochage, sont là, vivants. Donc, du côté de l'information radio, oui, je trouve que n'a pas eu l'effet qu'on attendait. Mais il y avait avant une autre question, un autre fait. C'était la pénétration, la tentative de pénétration des services portugais au commandement du Nord. Ils ont fait une opération de pénétration. Donc, on a accepté le jeu, mais on savait ce qu'ils voulaient. Ils ont été liquidés au Nord. La guerre, disons, active, hein, le tir, etc. Mais il y avait la guerre des services. C'est pas une question, les unités militaires contre les unités militaires, mais il y a d'autres actions. On a attrapé les Portugais, mais eux aussi, ils utilisent la méthode pour nous attraper. Il y a eu des agents doubles dans cette question.
En effet, les Portugais ont décidé de mener concomitamment l'action militaire et l'action psychologique. Il faut séduire le peuple, le retourner contre les nationalistes, en améliorant ses conditions de vie. Une option nouvelle qui risque de mettre à mal la stratégie d'Amilcar Cabral, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Amilcar Cabral. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal du RFI. Restez avec nous.
Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Depuis le déclenchement en janvier 1963 de la lutte armée contre le colonisateur portugais, Le PAIGC, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et de Cap-Vert, d'Amilcar Cabral, a opéré une avancée fulgurante. Il occupe les deux tiers du territoire. À l'international, son mouvement est désormais considéré comme un interlocuteur des peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Mais le Portugal de Spinola ne compte pas le laisser faire. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Amilcar Cabral. Devant l'ampleur de l'avancée du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui détient déjà près de deux tiers du territoire, et l'intense activité diplomatique d'Amilcar Cabral, le Portugal, pour faire face, va déployer de gros moyens militaires. Aristide Pereira, compagnon de lutte d'Amilcar Cabral au sein du PAIGC, ancien président du Cap-Vert.
En 68, on peut dire que c'est le point le plus haut de notre libération. Qu'on est arrivé à fixer l'ennemi sur le terrain. Ça veut dire, à partir de 68, la tactique des Portugais, c'était le suivant. Ne pas bouger dans les carres tranchées et on bombarde les Vannes.
Pedro Pires, membre du conseil de guerre, responsable de la formation des combattants.
On n'a pas pu avoir les moyens militaires pour briser l'équilibre. Pour briser l'équilibre, il faudrait avoir les armes anti-aériennes pour briser la couverture aérienne des Portugais et paralyser les hélicoptères. Après, il faudrait avoir des armes demi-lourdes pour casser la caserne. Donc, on n'a pas pu avoir jusqu'à 73. Donc, je vois cet aspect. Deuxièmement, je vois l'aspect matériel et la jalousie, disons-le. Parce que le parti avait déjà des moyens matériels. Les gens, face à ces moyens matériels, peut-être ne voulaient pas mourir, mais les gens voulaient l'accès à ces moyens matériels. Ce qui était, par hasard, était à Conakry, de mon point de vue.
Dans sa contre-offensive, le Portugal va ajouter à l'option militaire un volet psychologique, en africanisant la guerre par incorporation massive des locaux dans ses troupes, et en accordant des promotions aux élites traditionnelles qui, désormais, collaborent avec eux. La lutte change de visage. Et le PAIGC doit faire face à cette nouvelle stratégie. Amilcar Cabral.
Il cherche maintenant à faire une politique de tapage, n'est-ce pas, de tromper les populations, n'est-ce pas, de faire des concessions. Par exemple, concrètement, les Portugais ont toujours combattu chez nous l'islam, n'est-ce pas. Vous savez que nous avons une population d'environ 20% à 29% de musulmans, n'est-ce pas. Alors les Portugais combattaient cela, ils combattaient même les écoles coraniques, tout. Mais aujourd'hui, ils bâtissent des mosquées dans les centres urbains, n'est-ce pas, et ils envoient des gens à la Mecque. En outre, ils font certaines concessions sur le plan social, culturel. Ils envoient beaucoup plus maintenant d'étudiants au Portugal pour des bourses d'études. Nous remercions beaucoup parce que ce seront des futurs cadres pour notre pays, n'est-ce pas. Mais la réalité, c'est qu'ils n'arrivent plus à tromper des gens. Ces gens qui, à présent, voient avec un certain étonnement les Portugais changeaient tellement dans leur attitude civique envers les Africains, disent en général Djaram à PAIGC, cela veut dire merci PAIGC, parce qu'ils comprennent fort bien que c'est le résultat de la lutte, que ce n'est pas un changement de la part des colonialistes portugais.
Les Portugais entreprennent également d'améliorer les conditions sociales des habitants de Guinée-Bissau afin qu'ils soient plus favorables à leur combat. Distribution de riz, mise en valeur des terres, construction d'écoles et de postes sanitaires. Cette action psychologique va même infiltrer le PAIGC. Il faut travailler à diviser les militants, à opposer ceux de l'intérieur à ceux basés à Conakry voisin. Il faut aussi jouer sur les différences ethniques et religieuses, amplifier le climat de méfiance entre Guinéens et Capverdiens. Anna Maria Cabral, l'épouse d'Amilcar Cabral.
Il y avait pas mal de problèmes à Conakry parce que le parti avait beaucoup développé. Il y avait le secrétariat, l'école pilote. La majorité de tous ces combattants étaient des paysans qui jamais n'avaient vécu dans des centres urbains, dans des villas, etc. Et d'autres semi-analphabètes, on les enseignait. Il y avait d'autres, les gens qui travaillaient au secrétariat, qui étaient des enfants, disons, des petits bourgeois avec... Enfin, des gens n'avaient pas la modestie nécessaire pour comprendre qu'il fallait aider ces gens. Ces gens étaient des êtres humains aussi. Voilà, les problèmes étaient surtout à ce niveau, problème de compréhension, problème de classe, disons. Dans les réunions, surtout quand c'était Cabral qui dirigeait ces réunions, toutes ces questions étaient discutées et il n'y avait pas de graves problèmes entre ceux qui étaient au maquis et ceux qui étaient à l'extérieur. Surtout, elle pensait écrire encore pas mal de choses parce qu'il avait, à ce moment-là, il était très préoccupé avec la réalisation de l'Assemblée, la première Assemblée de Guinée qui allait proclamer l'État. Là, il y avait déjà 2 ans qu'on se préparait pour cette assemblée. D'abord, ce sont les gens qui ne comprenaient pas la question d'assemblée en État. Alors, les gens de l'intérieur disaient, mais on a déjà, ils pensaient que c'était un autre parti, ils disaient, mais on a déjà le PGC. Il a écrit plusieurs documents sur l'assemblée, mais il voulait écrire un document pour expliquer aux gens, aux paysans, qu'est-ce que ça veut dire une assemblée. Il y a un État. Du côté du Cap-Vert, il y avait surtout des difficultés à cause de la lutte armée qui ne commençait pas. Il y avait des Cap-Vériens qui étaient un peu impatients. C'était plus difficile à cause des îles. Il fallait trouver quelqu'un qui nous aide avec des bateaux. Alors, il y avait des Cap-Vériens qui étaient vraiment impatients. Oui, il y a des gens qui ont quitté le PGC parce qu'ils ont dit que ce n'était pas possible. Et voilà l'ambiance à Conakry était. Il n'y avait pas de bagarres, mais des tensions. Et je crois que c'est ça que ces agents qui étaient très bien préparés par les colonistes ont su utiliser les facteurs ethniques, religieux, parce qu'au parti il y avait tout, il y avait des animistes, des musulmans, des catholiques, il y avait toutes les religions. C'était des agents très bien préparés parce qu'ils ont mis les animistes contre les musulmans et vice-versa. Les catholiques contre les musulmans, etc. Les Guinéens contre les Cap-Vériens, c'était affreux l'ambiance qu'ils ont su créer à Conakry. Au milieu à peu près de 72, on a senti, et Cabral avait même écrit un document rappelant tout le monde qu'il fallait faire attention, il fallait être vigilant, etc.
Pedro Pirech, membre du conseil de guerre, responsable de la formation des combattants du PAIGC.
D'un côté, je dis que les Cap-Verdiens ont eu un rôle important. Mais en ce qui concerne que les Cap-Verdiens étaient les seuls qui décidaient, les seuls privilégiés, ça c'est... Vous voyez, quand vous avez un projet, vos ennemis choisissent vos points faibles. Nous le savons qu'il était un point faible. Point faible dans ce sens, il y a les Cap-Verdiens, il y a les Guinéens, mais il y a les Cap-Verdiens quelquefois qui sont plus instruits. Bon, donc on utilise ça. Parce que vous ne pouvez pas mettre dans un bureau un analphabète. Vous devez mettre dans un bureau quelqu'un qui sache lire, écrire et travailler. Mais en ce qui concerne ça, qui les décisions étaient toutes prises par les Cap-Verdiens, vraiment ça c'est faux. Les Cap-Verdiens étaient une minorité dans la direction du PAIGC. De mon point de vue, c'était utilisé par les Portugais. Qui avait le rôle principal, c'était Amilcar Cabral. Donc, il faudrait attaquer cet homme. C'était là, bon, Amilcar, il favorisait les Cap-Verdiens, etc. Mais c'est faux dans ce sens que, pendant la lutte de libération, le PAIGC a formé plus de cadres supérieurs guinéens que toute la colonisation portugaise. Donc, qui fait ça ne peut pas être accusé de vouloir s'accaparer d'un rôle quand il fait précisément le contraire. Il crée des conditions pour que cette situation disparaisse. Donc, ce n'est pas sérieux. Et les commandants, qui avaient un rôle très important dans cette lutte armée, ils étaient très peu. Celui qui était un rôle plus important, c'était moi. Mais le reste, c'était au moyen, le cadre moyen.
Les Portugais travaillent à semer la zizanie entre les différentes composantes du PAIGC. Il faut réveiller la vieille image du Cap-Verdien plus près du colon portugais. Il faut exacerber les vieux antagonismes que semblait avoir fait taire Amilcar Cabral. Alcide Evora Brito di Bacha, combattant du PAIGC.
J'étais responsable de service consulaire, disons. J'occupais des gens qui voyageaient, des camarades qui entraient de nouveau dans le parti, d'autres qui partaient en mission. Et au départ, nous, on n'avait pas beaucoup de difficultés ni beaucoup de problèmes. C'est quelque temps après qu'on a commencé à voir qu'il y avait un malaise entre la direction et ceux qui ont été au maquis. Bon, moi, je pense que dans une lutte pareille, nous, on trouve toujours des problèmes. Parce que les gens qui sont restés sur place au maquis, il y avait une certaine jalousie vers ceux qui sont restés à Conakry. Mais moi, je pense que dans une lutte, il faut avoir toujours des arrières. Parce que Cabral disait que ceux qui sont au maquis, d'autres qui sont en Guinée-Conakry, ils sont tous dans le même front. Parce qu'une lutte ne peut pas développer si vous n'avez pas un background. Et si vous ne le faites pas connaître, donc il fallait contacter l'élément extérieur. Et, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir qu'effectivement, il y avait un certain malentendu très fort.
Les difficultés rencontrées au Cap-Vert ne doivent pas freiner la lutte en Guinée-Bissau pour l'accession à l'indépendance. Pour Amilcar Cabral, qui intègre le Cap-Vert dans un ensemble national, la libération des îles est une question de temps. Elle viendra dans la foulée de la libération de la Guinée. En attendant, sur le sol guinéen, les combats se poursuivent. Les forces armées du PAIGC, secondées par les milices, tiennent leur position, malgré la contre-offensive menée par le général Antonio de Spinola. Malgré ces opérations de charme du Portugal aux populations des villes et des campagnes dans les zones sous leur contrôle, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, va conserver ses positions et même continuer son avancée. Et Cabral, dans le même temps, poursuit sa croisade diplomatique.
La présence d'un criminel comme le gouvernement portugais, au sein d'un organisme comme l'OTAN, qui proclame des principes de liberté, de démocratie, n'est pas la négation de ces principes. Au moins, il y a une chose, c'est que le gouvernement portugais, tout en étant avec ses partenaires de l'OTAN, trahit les principes que ses partenaires proclament.
Le discours de Cabral porte. Il dérange également. Conscient de cela, il multiplie les rencontres, les voyages, les participations à des conférences. En 1970, il sera au siège des Nations Unies à New York, puis devant la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Aristide Pereira, ancien président du Cap-Vert, il était le secrétaire général adjoint du PAIGC au moment de la lutte.
La grande stratégie de Cabral. Et c'est comme ça qu'on arrive à la grande victoire diplomatique qui a été, disons, je ne dis pas encore la proclamation de l'État de la Guinée-Bissau, mais la mission des Nations Unies qui était partie et qui a fait un rapport en disant la Guinée-Bissau, c'est un pays, c'est un État avec des portions de son territoire occupé par des troupes étrangères. Ça, c'était une victoire éclatante contre le système colonial.
Chers camarades, je serai bref en vous disant que dans le domaine politique, il nous intéresse à présent de mener à bonne fin la réalisation des élections générales chez nous pour la création de notre première Assemblée nationale populaire, organe suprême de la souveraineté reconquise de notre peuple. Je peux vous informer que les travaux concernant cet événement marchent très bien et que bientôt, notre peuple aura encore un instrument de son souveraineté et prendra des mesures nécessaires pour accélérer la réalisation de ses objectifs, qui est la conquête de l'indépendance nationale.
En avril 1970, Amilcar Cabral se rend à Moscou à l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire de Lénine. En juin de la même année, il est à Rome, où il participe à la conférence de solidarité avec les peuples des colonies portugaises. Ana Maria Cabral, son épouse, raconte.
Il y a eu une grande réunion de solidarité avec les peuples des colonies portugaises. Et que le pape, c'était à ce moment-là, 70, pape Paul VI, je pense, les a reçus. Les trois leaders des mouvements de libération, le Cabral, Neto et Marcelino dos Santos.
Cette popularité sur le plan international n'est pas du tout du goût du Portugal qui, dès le mois de novembre 1970, lance un commando pour capturer les leaders du PAIGC, fragiliser sa base arrière, détruire ses installations et faire tomber dans le même temps le régime guinéen de Sékou Touré qui les soutient.
D'ailleurs, il y a encore un point d'interrogation ce soir sur la Guinée. Il semble que l'incursion armée étrangère se poursuive, tout au moins si on en croit Radio Conakry. En fin de matinée, la radio précisait que la lutte n'était pas terminée, mais elle déclarait que le président Sékou Touré tenait la situation bien en main. Écoutez du reste cette déclaration captée sur les antennes de Radio Conakry.
La lutte n'est pas terminée. Cette guerre doit chaque jour revêtir un caractère populaire et révolutionnaire. La guerre impérialiste imposée à notre peuple devient l'affaire de tout le peuple. L'essentiel se décidera sur le terrain. Nous sommes invincibles parce que notre cause est juste. Parce que nous sommes un peuple conscient, dirigé par un parti organisé.
Ah !
C'était un extrait de Radio Conakry capté par les stations d'écoute de l'ORTF. Depuis lors, la radio ne cesse d'émettre de la musique militaire entrecoupée de chants guinéens. Un fait à noter, les émissions sont maintenant données le plus souvent en langue traditionnelle, le français étant beaucoup moins employé qu'hier. Sur la situation même, la radio n'est guère bavarde, elle s'est contentée de faire état de l'assassinat d'un certain nombre d'experts européens, dont deux ressortissants ouest-allemands. Dans un communiqué, le gouvernement guinéen a déploré ces actions qu'il qualifie de lâches assassinats. Mais cette information semble se confirmer. En effet, le ministère des Affaires étrangères ouest-allemand a annoncé ce soir qu'il avait été informé qu'un Allemand de l'Ouest qui travaillait pour une société allemande à Conakry avait été tué dans les combats. Et le ministère ouest-allemand ajoute qu'il n'avait pas reçu d'informations sur la mort d'autres ressortissants ouest-allemands et qu'il était en contact avec une compagnie aérienne belge qui pourrait avoir un vol sur Conakry dans la soirée d'aujourd'hui pour évacuer certains étrangers.
Dans la capitale guinéenne, la situation est confuse. Les quelques soldats qui assuraient la garde des installations du parti à Conakry sont au premier rang dans le combat. La bataille est rude.
Des bateaux étrangers qui stationnent encore dans nos eaux territoriales. Des centaines de mercenaires européens de nombreuses nationalités sont dans la ville. Nombreux de ces mercenaires sont entre les mains des forces révolutionnaires.
La mission est un échec. Les Portugais n'ont pas pu renverser le régime de Sékou Touré. Ils n'ont pas non plus pu capturer les leaders du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ils sont tout de même parvenus à ramener avec eux 24 de leurs prisonniers qui étaient retenus à Conakry. Amilcar Cabral est plus que jamais conscient que sa vie est en danger, que les Portugais seraient bien contents de le faire disparaître.
Nous sommes tous nécessaires, mais personne n'est irremplaçable dans cette lutte. Si la lutte s'arrête, c'est qu'elle n'était pas bien pensée. Si je m'en allais, ou si je m'arrêtais, ou si je mourais ou disparaissais, il y aurait des gens du parti qui seraient capables de continuer la lutte. S'il n'y en avait pas, nous n'aurions encore rien fait. Amilcar Cabral.
C'est donc conforté par le succès sur le terrain et sur le plan diplomatique qu'Amilcar Cabral se rend à Addis Abeba en Éthiopie où se tient la conférence des chefs d'État et de gouvernement africains en 1971. Un sommet où il va obtenir l'aide de l'ensemble des dirigeants du continent qui soutiennent sa lutte.
Addis Abeba vient de prouver que nos frères africains de tous les pays indépendants sentent et souffrent avec nous notre situation. S'il y avait quelques doutes dans l'esprit de quelques nationalistes, les résultats de la conférence auront effacé ce doute complètement. Nous espérons que les résolutions prises, les décisions prises seront menées ou mises en pratique et que bientôt nous pourrons, avec l'aide de nos frères africains, éliminer complètement la domination coloniale dans nos pays, soit dans les pays dominés par le Portugal, soit dans les autres encore sous domination.
Ces tribunes où Amilcar Cabral s'exprime régulièrement sont très mal vécues par le Portugal, qui n'en peut plus de cette image colonialiste qui lui colle à la peau. Amilcar Cabral est plus que jamais dans la ligne de mire de Lisbonne. Il faut le faire taire. Mais comment va-t-il procéder ? La protection du président Sékou Touré de Guinée va-t-elle suffire à le protéger contre cette lourde menace d'État ? Rendez-vous la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.